Merci à tous pour l'invitation, merci au réseau. Ce matin, je vais donc prendre le relais de Sylvain Brichet, qui vous a parlé de l'aspect scientifique de la question de l'existence de Dieu à partir du fine-tuning et un petit peu également de la question du Big Bang. Je vais également un tout petit peu en parler, mais moi ce qui va m'intéresser, c'est le type même d'argument qu'on appelle l'argument cosmologique. Alors, qu'est-ce qu'un argument cosmologique pour commencer ? Eh bien, un argument cosmologique, c'est un argument qui tente de prouver l'existence de Dieu à partir de l'existence de l'univers. Et à ce titre, cosmologique ne fait pas référence à l'univers tout court, mais fait référence très exactement à l'existence de l'univers. En ce sens, un argument cosmologique est distinct d'un argument qu'on pourrait appeler téléologique, c'est-à-dire un argument qui trouve de l'ordre ou de la finalité dans l'univers et à partir de là va essayer de prouver l'existence de Dieu. Par exemple, l'argument du fine-tuning est un type d'argument téléologique. Un autre type d'argument assez classique, c'est l'argument ontologique qui consiste à démontrer l'existence de Dieu à partir de son propre concept. Descartes, on a fait l'exemple classique, Dieu est parfait, or l'existence est une perfection, donc Dieu existe. Ça, c'est un type classique de preuve ontologique. Moi, je vais parler uniquement des preuves de type cosmologique. Donc, en quoi l'existence de l'univers pourrait nous montrer l'existence de Dieu ? L'idée globale, c'est que l'existence de l'univers ne suffit pas à s'expliquer par elle-même et qu'elle implique, pour pouvoir être expliquée, une cause divine, l'existence d'une cause divine. Alors, en réalité, quand on parle de preuves cosmologiques, on a l'impression qu'il n'y en a qu'une seule. En réalité, il en existe plusieurs types, chacune a sa stratégie particulière et son point de départ qui lui est particulier. L'argument le plus connu, c'est l'argument dont a parlé tout à l'heure Sylvain Brichet, à savoir l'argument du commencement. L'univers a un commencement, il faut donc bien qu'il y ait une cause avant ce commencement, puisque tout ce qui est un commencement a une cause. Si l'univers a un commencement, il a donc forcément une cause. Ça, c'est l'argument le plus connu, mais ce n'est pas le seul. On a également l'argument de la contingence. Tout à l'heure, Sylvain Brichet parlait de Christian Wolff, qui était disciple de Leibniz, et Leibniz était celui qui a formulé de façon basique l'argument de la contingence, à savoir que l'univers existe, mais il aurait pu ne pas exister, ou il aurait pu être différent. Par conséquent, il faut trouver une explication pourquoi l'univers est ainsi plutôt qu'autrement, et ça, cela nous conduit à une cause nécessaire qu'on appelle Dieu. Et puis enfin, il y a le dernier argument qu'on va étudier, à savoir l'argument de la complexité. Car ce dont on parle, c'est de l'existence d'un univers. Or, l'existence d'un univers est forcément quelque chose de complexe. Un univers, par définition, est quelque chose de complexe. Et donc, il faut essayer de trouver une explication à comment une chose complexe peut-elle exister. Quelles sont les conditions d'existence d'une chose complexe ? Chacun de ces arguments est très différent. Même si on les range sous la même typologie, en réalité, ce sont des arguments très différents, ils ont chacun leur stratégie qui est propre, et donc par conséquent, ils ne sont pas tous sensibles aux mêmes objections, ils n'ont pas tous les mêmes forces et ils n'ont pas tous les mêmes faiblesses. Donc il faut bien avoir en tête la distinction entre ces trois arguments. Le premier argument que je vais développer, c'est le plus connu, donc on parlait tout à l'heure de William Lane Craig, le voici, c'est lui, William Lane Craig, qui a développé l'argument du commencement. Alors on peut le formuler de façon assez courte ainsi, avec deux prémices et une conclusion, à savoir, première prémisse, que tout ce qui a un commencement a une cause. Deuxième prémisse, or l'univers a un commencement, et donc la conclusion qui suit logiquement, c'est un syllogisme parfait. Conclusion, donc il a une cause. On verra après pourquoi serait-ce Dieu. Alors quand on regarde l'argument, parce que c'est ça qui est le plus intéressant en philosophie, c'est pas tellement le syllogisme en lui-même, mais plutôt l'étude de chacune des prémisses, dès la première prémisse, il y a déjà un problème qui se pose, à savoir que c'est étonnamment la prémisse qui est la plus contestée par les athées par rapport à la question de l'existence de Dieu. C'est finalement cette prémisse-là dans l'argument qui est la plus contestée, à savoir que le principe de causalité, donc que tout est fait une cause, est un principe qui n'est pas démontré, qui n'est pas démontrable. Et sa négation n'impliquerait pas de contradiction. On pourrait très bien concevoir, nous dit David Hume par exemple, un effet qui ne soit pas précédé d'une cause. Et donc par conséquent, pourquoi ne pas imaginer qu'un effet puisse subitement apparaître sans qu'il y ait la moindre cause à son origine ? S'il n'y a pas de contradiction, ça veut dire que c'est quelque chose qui est logiquement possible, et donc par conséquent, on pourrait très bien imaginer l'existence d'un effet qui soit dépourvu de cause. Alors comment est-ce que William Lane Craig essaye de défendre ce premier principe ? Eh bien, il fait d'abord appel à l'expérience commune. D'une manière générale, on voit que tout ce qui a un commencement, en général, a une cause, et donc nous sommes justifiés à défendre l'idée, d'un point de vue inductif, qu'il y a bien une cause avant tout effet. Alors évidemment, si on prend une défense inductive sur l'expérience, eh bien on ne peut pas avoir une défense certaine à 100%. De l'expérience, nous ne pouvons tirer que des lois qui sont probables et aucune loi qui est absolument certaine. William Lane Craig défend également qu'il est plus raisonnable d'affirmer le principe de causalité plutôt que sa négation. Et c'est vrai que si je vous disais qu'un tigre est apparu soudainement, alors que je passais aux toilettes tout à l'heure à la fin de l'exposé de Sylvain Bréchet, qu'un tigre m'est apparu soudainement et qu'il a disparu aussitôt, ça paraît profondément déraisonnable. On s'imagine plutôt, est-ce qu'il y ait des raisons derrière tous les effets qui arrivent ? Donc on s'imagine mal que quelque chose puisse apparaître subitement sans aucune cause antérieure. Donc William Lane Craig défend plutôt sa plausibilité. Et en tant qu'il défend la plausibilité de l'argument, enfin en tout cas de la prémisse, je pense qu'on est obligé forcément de défendre la plausibilité également de la conclusion. On devrait plutôt dire, il est plausible que tout ce qui a un commencement a une cause, or l'univers a un commencement, donc il est plausible qu'il ait une cause, ce qui réduit déjà un tout petit peu la force de la conclusion. Alors parmi les objections à la première prémisse, il y a également des objections qui sont non pas d'ordre philosophique, mais plutôt scientifiques. Et on pense notamment à la mécanique quantique, qui est souvent invoquée pour émettre des objections contre le principe de causalité, puisque, dit-on, certains événements subatomiques seraient considérés comme étant non causés. Alors que répond William Lane Craig à cela ? Eh bien, il relativise l'interprétation classique, l'interprétation de Copenhague, de la mécanique quantique, au profit d'une autre interprétation qu'il pense comme étant possible, à savoir l'interprétation de Broglie-Bohm. Alors, pour toutes les questions qui seront spécifiques à la mécanique quantique, je vous renverrai vers Sylvain Bréchet. Et d'autre part, il affirme que les scientifiques ont une tendance à utiliser de façon un peu vague la notion de vide. La notion de vide, pour un philosophe, est une notion qui est très précise, c'est l'absence d'objet et l'absence de propriété. Or, les physiciens utilisent souvent le vide comme ayant des propriétés, donc c'est pas un vrai vide. Donc quand on dit que quelque chose est apparu à partir de vide, pourquoi pas en un sens physique, mais pas dans un sens aussi strict qu'au sens philosophique. Il n'y a rien qui, concrètement, apparaisse à partir de rien. Il n'y a rien qui est produit de façon ex nihilo. La seconde prémisse, maintenant. Or, l'univers a un commencement. La seconde prémisse, William Lane Craig la défend sur une double base, là encore, à la fois une base philosophique et une base scientifique. La base philosophique, c'est le fait que si l'univers avait eu un commencement, cela signifierait que son passé est un infini actuel, autrement dit un infini achevé, un infini actuel qui se serait réalisé par additions successives. Et William Lane Craig insiste beaucoup sur la précision. Il ne s'agit pas d'un infini potentiel. Un infini potentiel, c'est un infini qui est un horizon possible. Ici, il s'agit d'un infini qui est réalisé. On a effectivement affaire à un infini complètement réalisé. Et par addition successive, c'est-à-dire qu'on ajoute un membre fini à un autre membre fini dans un processus qui est fini. Quand vous regardez le temps, il y a un instant qui s'ajoute ensuite à un instant, puis ensuite à un autre instant. La question, c'est est-ce qu'on peut composer de l'infini à partir d'une addition de membres finis selon un processus qui est fini ? William Lane Craig défend que non, et cette défense est assez classique en philosophie depuis Aristote. Il utilise également l'hôtel d'Hilbert, les paradoxes liés à l'hôtel d'Hilbert, pour affirmer que l'idée même d'un infini actuel semble paradoxale s'il admet son usage en mathématiques, en tout cas il ne l'admet pas d'un point de vue ontologique. Il y a évidemment une faiblesse, une petite faiblesse, mais qui à mon avis est importante par rapport à cette idée du fait que l'univers a un commencement, c'est que c'est tout particulièrement vrai, mais quand on adopte une certaine théorie du temps. Il y a en philosophie, depuis plus loin que MacTaggart, mais en tout cas depuis MacTaggart, on a systématisé l'opposition entre deux théories du temps, ou bien on conçoit le temps comme étant une réalité dynamique. Et donc quand on parle d'un commencement, il y aurait un vrai commencement à partir de quoi le temps aurait commencé à s'écouler. Ça, c'est la théorie A du temps, à savoir la théorie d'un temps dynamique. Mais on peut aussi concevoir la théorie B du temps, qui consiste à dire que le temps n'est pas une réalité dynamique, mais plutôt quelque chose de statique, une dimension qu'on peut tout à fait penser de façon analogue à l'espace. Un peu comme lorsque vous prenez les anciennes pellicules vidéo, tout à l'heure Sylvain parlait des Turner sur les appareils radio, eh bien cette fois-ci on va parler des anciens caméscopes. Si on déroule la bande d'un caméscope, on a toutes les vignettes du film, eh bien la théorie B insiste sur le fait que toutes ces vignettes sont coexistantes les unes avec les autres. Et donc le temps, l'impression dynamique du temps n'est qu'une impression qui est phénoménologique, qui est subjective, mais qui n'est pas réelle. Si la théorie B du temps est vraie, eh bien cela signifie que certes, il y aurait un commencement, c'est l'impression que nous avons à l'intérieur de l'univers, néanmoins d'un point de vue extérieur à l'univers, l'univers est éternel. Même s'il a un temps qui est fini, l'univers est d'une certaine manière atemporel. Le temps n'est qu'une dimension de l'univers. Et à ce titre-là, l'univers en lui-même est atemporel. Et donc par conséquent, malheureusement, la deuxième prémisse tombe. Donc il faut évidemment faire une défense, non seulement de l'argument d'une manière générale, mais également d'une théorie A du temps. Et je dis cela d'autant plus que il me semble que la relativité générale tend plutôt vers la théorie B du temps plutôt que la théorie A du temps. Donc il y a une défense à faire ici par rapport à toutes ces questions. Pour les arguments scientifiques, William Lane Craig invoque deux arguments. L'argument de l'expansion. Donc si l'univers est en expansion par extrapolation inversée, il a dû commencer avec une singularité initiale. Et puis d'autre part, l'argument de la thermodynamique. Alors pour les objections, je commence d'abord par celle de l'expansion. William Lane Craig étudie longuement toutes les alternatives qu'on peut trouver à la théorie du Big Bang, à savoir les modèles stationnaires, oscillatoires, des fluctuations dans le vide, inflationnaires chaotiques, de gravité quantique, ou encore appliquant la théorie des cordes. Je vous avoue que je ne suis pas un spécialiste de chacune de ces questions. En tout cas, à chaque fois, William Lane Craig affirme que ou bien on ne peut pas éviter un commencement absolu, ou bien on manque tout simplement de données empiriques pour pouvoir rendre plausible chacun de ces modèles. Et donc, nous n'avons pas de raison de craindre les modèles alternatifs à la théorie du Big Bang. William Lane Craig s'inspire en particulier d'un théorème, celui de Broad, Gut et Wilenkin, qui affirme que tout univers qui a été, tout au long de son histoire passée, globalement dans un état d'expansion cosmique, ne peut pas être éternel dans le passé, mais doit avoir une limite spatio-temporelle. Et donc pour lui, ce théorème signe d'une certaine manière la fin de toute tentative de trouver une alternative au modèle du Big Bang. En ce qui concerne le deuxième argument scientifique qu'utilise William Lane Craig, il utilise la seconde loi de la thermodynamique qui affirme que les processus dans un système clos se produisent de telle sorte qu'ils tendent toujours vers un état d'équilibre. Autrement dit, s'il y a des différences de température à l'intérieur d'un système, on tend progressivement vers une homogénéisation des températures. Si l'univers était infini, eh bien, les conséquences liées à la seconde loi de la thermodynamique impliqueraient une mort thermique de l'univers. Or, comme nous ne sommes pas dans un tel état, on peut en conclure que l'univers n'a pas un passé qui est infini. Alors là encore, William Lane Craig étudie les différents échappatoires qui sont possibles, à savoir le modèle oscillatoire, un univers né possiblement d'un trou noir, ou encore les multivers inflationnaires. Dans tous les cas, William Lane Craig affirme qu'aucun n'échappe à l'idée d'un commencement absolu ou à des difficultés théoriques. Et d'ailleurs, pour William Lane Craig, finalement, ce deuxième argument est peut-être même plus fort que le premier, à savoir celui de la théorie du Big Bang. Pour lui, les conséquences impliquées par la seconde loi de la thermodynamique sont plus fortes que les conséquences liées à l'expansion de l'univers. Alors, si les deux prémisses sont vraies, qu'en est-il de la conclusion ? La conclusion suit logiquement, puisqu'il s'agit d'un syllogisme, mais on peut se demander pourquoi cette cause en question serait-elle Dieu ? Eh bien, William Lane Craig avance les arguments suivants. Dans la mesure où l'espace et le temps ont été créés avec l'univers, c'est-à-dire qu'ils ne commencent à exister qu'à partir du moment où l'univers existe, eh bien la cause elle-même ne peut pas être spatiale ni temporelle, elle est donc atemporelle et non spatiale. Et donc par conséquent, elle est immuable, puisqu'il faut qu'il y ait du temps pour qu'il y ait du changement. Donc la cause en question est forcément immuable, et immatérielle, puisqu'il faut qu'il y ait de l'espace pour qu'il y ait de la matière. Elle est donc éternelle, c'est déduit de son immuabilité et de son atemporalité, et elle est également très puissante, puisqu'elle est à l'origine et la cause de l'univers. Or, pour créer une réalité aussi aussi importante, il faut nécessairement que la cause puisse contenir au moins la capacité à créer cet effet. Donc la cause en elle-même doit être très puissante. Pour la question de la personnalité, est-ce que cette première cause est personnelle? Là, William Lane Craig déploie trois arguments. Le premier s'inspire de Richard Swinburne, que nous aurons l'occasion de revoir à la fin de l'exposé, d'après qui il y a deux types d'explications. Il y a des explications qui sont de type physique, qui invoquent des entités matérielles, et puis il y a des explications qui sont de type personnel, qui invoquent plutôt des intentions. Or, l'univers ne peut pas avoir une explication physique, puisque les explications physiques ne valent qu'à partir du moment où il y a un univers. Or, la cause dont on parle est antérieure à l'existence même d'un univers. Donc, si ce n'est pas une cause physique à laquelle nous avons affaire, ce sera plutôt à une explication de type personnel. Donc, William Lane Craig conclut que nous avons affaire à une cause personnelle. Le deuxième argument qu'il utilise, c'est la nature même de la cause que nous avons découverte. Dans la mesure où cette cause en question est intemporelle et immatérielle, nous avons comme possibilité diverses entités, deux notamment, ou bien une entité abstraite de type mathématique, mais le fait est que jusqu'à preuve du contraire, les mathématiques ne causent rien de réel, ou bien une entité de type personnel, et une entité de type personnel est capable de produire des effets. Donc William Lane Craig conclut, c'est une entité de type personnel. Enfin, dernier argument, c'est le fait qu'il y a une difficulté à concevoir un univers qui commence dans le temps, car je le rappelle, William Lane Craig adhère à la théorie A du temps, c'est donc la difficulté à concevoir un univers qui commence dans le temps, alors que Dieu lui-même est éternel. Pourquoi a-t-il créé à un moment donné? Comment se fait-il que la cause soit éternelle et que l'effet lui soit temporel? Une réponse possible que donne William Lane Craig, c'est qu'il s'agit d'une décision personnelle. On peut éternellement décider qu'à un moment donné, il y aura une création. Alors peut-être que vous n'êtes pas absolument convaincu par chacun de ces arguments. J'avoue que moi, personnellement, il me laisse certains un peu dubitatifs. En tout cas, soyez rassurés qu'il existe plusieurs types de déductions et d'analyses d'une cause première qui soit personnelle. Ces arguments-là ne sont pas les seuls, c'est quelque chose qui est assez classique en philosophie, on trouve ça chez Anselme, on trouve ça chez Thomas d'Aquin, chez Leibniz, chez son disciple Christian Wolff, etc. Et chacun des trois arguments que nous verrons, dans tous les cas, les auteurs proposent plus ou moins des arguments différents pour arriver à l'idée d'une cause qui est personnelle. Alors l'argument de William Lane Craig est globalement valide, il y a juste la prétention à la certitude qui devrait peut-être être réduite dans la mesure où la première prémisse est seulement considérée comme plausible par William Lane Craig et donc par conséquent la conclusion devrait être elle-même considérée comme seulement plausible. Et puis il y a ce problème qu'il faut exclure la théorie B du temps. Si elle était vraie, eh bien évidemment l'argument tombe lui-même. Donc il faut absolument adhérer à la théorie A du temps pour adhérer à l'argument de William Lane Craig. Alors on peut se demander comment réussir à trouver un autre argument qui, lui, arrive à prendre en compte, en plus, la théorie B du temps. Et là, on arrive à l'argument de la contingence, dont un auteur contemporain qui la défend est Alexander Pruss, qui a écrit tout un livre sur le principe de raison suffisante. Et donc, il défend l'argument de la contingence, mais bien avant lui, c'est Leibniz qui avait formulé de façon la plus claire cet argument. Alors, l'argument de la contingence, il dit la chose suivante. Il dit que toute chose existante a une raison, et j'insiste sur le fait que raison, ça ne signifie pas intention, ça signifie pas finalité. Raison, ça signifie simplement explication. Il y a une explication qui est possible. Donc toute chose existante a une raison ou une explication qui explique son existence et sa manière d'être. Donc on peut expliquer pourquoi une chose existe et pourquoi elle est ainsi plutôt qu'autrement. Ou bien la raison d'une chose réside en elle-même, auquel cas elle est nécessaire, j'y reviendrai, ou bien elle réside en autre chose, auquel cas elle est contingente. Or, l'univers est contingent, c'est-à-dire qu'il pourrait être autrement qu'il est, et donc par conséquent, il faut lui trouver une explication qui ne réside pas en lui-même. Par conséquent, conclusion, il doit exister une cause nécessaire expliquant l'univers. Alors la première prémisse est une formulation de ce qu'on appelle le principe de raison suffisante. Toute chose existante a une raison qui explique son existence et sa manière d'être. Et là encore, de la même manière que pour le premier argument, c'est la prémisse qui est la plus contestée de tout l'argument. L'objection principale consiste à affirmer qu'il n'existe pas, là encore, de démonstration de ce principe, qu'il est sans explication, Et un principe qui nous dit que tout est explicable, mais qui n'est pas lui-même explicable, est évidemment autocontradictoire. Et donc, assez souvent, on affirme que le principe est lui-même autocontradictoire et donc auto-réfuté. La question qui se pose, c'est quelle est la raison suffisante du principe de raison suffisante ? Alors, il y a malgré tout un certain nombre d'arguments en faveur de ce principe dans la littérature philosophique. Je vais les dessiner très rapidement. Il y a d'une part l'argument selon lequel ce serait évident. C'est un principe inné, tout le monde sait que toute chose a une explication. Le seul problème, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre comment des individus raisonnables, David Hume, en théorie, est un individu raisonnable, comment des individus ont pu douter de ce principe. C'est qu'il n'est pas si évident que cela. Deuxième type d'argument, on peut essayer de le démontrer par l'absurde. On peut dire que si on le nie, ça impliquerait quelque chose qui serait absurde. Par exemple, cela pourrait impliquer que l'on soit obligé de douter de la causalité entre ses propres sensations et l'objet qui est perçu. Habituellement, on ne doute pas de ses sensations parce qu'on se dit qu'il y a un rapport de causalité entre le fait qu'il y a un objet que je perçois. Et c'est ce rapport de causalité qui me certifie que l'objet de mes perceptions est bien réel et effectif. Mais si le principe de raison suffisante est faux, eh bien ça voudrait dire que je pourrais avoir des perceptions qui n'ont aucune cause. D'une certaine manière, on aurait quasiment affaire à quelque chose de l'ordre de l'hallucination. Donc on devrait douter de ses propres perceptions. On peut dire encore que des êtres pourraient apparaître comme cela sans explication, ce qui apparaît très étrange. Ou encore, on pourrait invoquer l'absence d'explication comme étant légitimement une explication à un phénomène qui est inexpliqué. Pour le dire plus simplement, Christian Wolff essaye une démonstration par l'absurde, en disant que si le principe de raison suffisante était faux, ça voudrait dire que rien peut être la cause de quelque chose. Or, rien, par définition, normalement, c'est l'absence de propriété, donc d'incapacité causale. Ce serait absurde. Mais en réalité, on le voit à chaque fois, il y a en quelque sorte une pétition de principe. Ce qui scandalise, c'est justement le fait qu'il n'y ait pas d'explication. Mais un partisan, ou plutôt un opposant au principe de raison suffisante, dirait « mais cela ne me choque pas ». Vous êtes choqué parce que vous êtes partisan du principe de raison suffisante, donc vous ne faites que de démontrer l'absurdité d'un principe que vous avez déjà postulé, mais moi, comme je n'y adhère pas, la conclusion ne me choque pas. On pourrait encore tenter une justification inductive, à savoir qu'on ne constate pas, d'une manière générale dans l'expérience, de violation du principe de raison suffisante, et que le monde est globalement plutôt prévisible. C'est-à-dire que dans l'expérience, on a l'impression que la plupart des choses sont explicables, et le fait qu'elles soient explicables fait que même nous pouvons les prédire, parce qu'il n'y a rien qui apparaît sans cause, donc si nous connaissons une condition initiale, eh bien nous pouvons connaître les conséquences. Mais si c'est un principe qui serait dérivé d'un argument inductif, alors dans ce cas, la conclusion serait plausible et pas certaine. Face à l'objection de la mécanique quantique, Proust essaye de proposer un certain nombre de pistes. Exactement comme William Lane Craig, il remet en question l'interprétation dominante de indéterministe de Copenhague, en affirmant qu'il existe par exemple celle de David Bohm. Il pense qu'on pourrait peut-être tenter de s'accommoder, sinon, autre voie possible, d'une explication indéterministe. J'ai du mal à saisir comment on peut faire, mais une explication indéterministe des événements quantiques à l'image du libre-arbitre, le libre-arbitre pouvant expliquer certaines choses. Là encore, on a affaire à une forme d'indétermination. Pourtant, le libre-arbitre arrive à expliquer certaines décisions. Donc peut-être, est-ce qu'on pourrait utiliser en mécanique quantique le même mécanisme, à savoir une forme d'indétermination, mais qui aurait quand même des explications ? Personnellement, je pense qu'on peut aussi envisager que, sur ce point-là, la physique atteint la limite de sa fermeture causale ou de sa complétude causale. Il pourrait très bien y avoir une causalité métaphysique. Par exemple, Dieu qui décide, dans sa souveraineté, la position de chaque particule ou la trajectoire de chaque particule. On peut envisager différentes pistes qui évitent l'indéterminisme quantique. Alexander Proust va un peu plus loin puisqu'il propose lui-même un argument qui est un peu compliqué, je vais essayer de le résumer très rapidement en quatre étapes. Peut-être que vous ne serez pas absolument convaincu. Il faut y réfléchir, je pense, un petit moment avant de voir sa force. C'est un argument qui est un argument modal, donc c'est-à-dire qui se base sur la notion de monde possible, en faveur du principe de raison suffisante, à partir d'une version plus faible. Car l'idée de Alexander Proust, c'est que des fois, on a du mal à admettre ce principe qui paraît trop massif. Toute chose existante à une raison qui explique son existence et sa manière d'être. Lorsqu'il propose, c'est plutôt que de formuler l'argument cosmologique à partir d'un principe aussi massif, tenter une autre formulation à partir d'un principe qui est un peu plus faible. Et essayer de démontrer que ce principe qui serait plus faible nous conduit de toute façon au principe fort du principe de raison suffisante. Alors le principe plus faible qu'il propose, c'est de dire que pour toute proposition contingente vraie, donc pour toute proposition contingente, c'est-à-dire qui peut être ou ne pas être, qui soit vraie, eh bien il y a un monde possible. Donc c'est-à-dire un monde possible, c'est un ensemble de propositions complètes qui ne contiennent pas de contradictions. Dans ce monde, et ici présent, je suis en train de parler, mais on peut tout à fait concevoir un autre monde possible dans lequel, à cause d'un empêchement, j'aurais été incapable de venir, et donc je ne serais pas là devant vous à prononcer cette conférence. C'est un autre monde possible. Donc le but, c'est de réfléchir sur la notion de possible. Donc pour toute proposition contingente vraie, il y a un monde possible dans lequel il y a une explication. C'est-à-dire qu'on peut toujours concevoir un monde dans lequel un phénomène qui, ici, paraît inexpliqué, aurait une explication dans ce monde-là. Il n'y a donc aucune vérité qui soit en soi totalement inexplicable. Parce que si une vérité était absolument inexplicable, il n'y aurait pas de monde possible dans lequel celle-ci pourrait avoir une explication. Donc, première étape, pour toute proposition contingente vraie, il y a un monde possible dans lequel elle a une explication. Il n'y a donc aucune vérité absolument inexplicable. Deuxième prémisse, il y a donc un monde possible dans lequel toute proposition contingente de notre monde réel est contenue, mais qui en plus de cela a une explication. Donc vous prenez l'ensemble des affirmations qui sont une description intégrale de notre monde. Vous concevez un monde possible dans lequel toutes les affirmations qui sont valables dans notre monde sont également valables dans ce monde-là, sauf que dans ce monde-là, non seulement elles sont toutes effectives, mais en plus de cela, elles ont toutes une explication. Eh bien, on arrive alors au dénouement de l'argument. Or, il n'est pas possible qu'une proposition contingente de notre monde réel soit fausse, mais vraie dans ce monde possible, puisque ce dernier contient notre monde. En ce sens que si une proposition était vraie dans notre monde, si par exemple on affirmait que dans notre monde, il y a quelque chose qui est sans explication. Si cela était vrai dans notre monde, et qu'ensuite on réfléchit à ce monde possible en question, eh bien, dans la mesure où ce monde contient l'ensemble des propositions qui sont identiques aux nôtres, ça voudrait dire que dans ce monde, il y a une explication qui est sans explication, enfin, il y a un phénomène qui est sans explication. Or, à l'ensemble des propositions est ajouté le fait qu'il y a une explication. Donc, il y aurait une contradiction entre l'ensemble des énoncés qui correspondent à notre monde et le fait que chacun aurait dans ce monde possible une explication. Donc, ça implique que toutes les propositions contingentes soient identiques entre ces deux mondes-là. Et par conséquent, puisque ces deux mondes-là sont en fait identiques, en vertu de l'identité de leurs propositions, eh bien toute proposition contingente a une explication dans le monde réel. Alors je vous l'accorde, c'est un peu compliqué. Pour ceux qui aiment les maths et la logique formelle, il suffit de se référer aux articles de Alexander Pross sur la tentative de démonstration de l'argument cosmologique à partir d'un principe plus faible du principe de raison suffisante. Alors, ça vous a donné certainement un peu mal à la tête, donc je passe à la seconde prémisse. La seconde prémisse, elle est impliquée par la précédente. Elle consiste à affirmer que toute chose a une explication, et donc par conséquent, ou bien elle est en vertu d'elle-même, c'est parce qu'elle a telle nature qu'elle est ainsi, et ça implique alors la nécessité, ou alors c'est en vertu d'autre chose, si cette explication n'est pas contenue en elle-même. Et donc on parle là alors d'un être qui est contingent, c'est-à-dire qui aurait pu être autrement. Bon, ici, il n'y a pas de mystère, donc je passe directement à la troisième prémisse. Or, l'univers est contingent. Qu'est-ce qui nous prouve que l'univers est contingent? À savoir donc qu'il aurait pu ne pas exister ou qu'il aurait pu être autrement. Un premier élément évident, c'est la logique modale. Encore une fois, si on peut penser d'autres univers possibles, c'est-à-dire des ensembles comme le nôtre qui ne contiennent pas de contradictions, ça veut dire que notre univers n'est pas le seul qui soit possible. Si notre univers n'est pas le seul qui est possible, la question c'est pourquoi est-ce que le nôtre est tel qu'il est? Il aurait pu être autrement, ou il aurait pu même ne pas exister, puisqu'il y a des univers possibles qui n'existent pas. Deuxième élément, les conditions initiales de l'univers auraient pu être différentes. Et ça, Sylvain Bréchet l'a bien indiqué tout à l'heure, il y a une forme de contingence dans les conditions initiales de l'univers, de telle sorte qu'on peut très bien imaginer que les conditions initiales de l'univers auraient pu être différentes, et alors l'univers serait lui-même différent. Donc, il est contingent. Sylvain Bréchet a abordé la question des multivers, et par rapport à la question du fine-tuning, le multivers, on ne l'apprécie pas beaucoup. Mais néanmoins, il me semble que ça peut être un bon argument concernant la preuve cosmologique, donc c'est-à-dire par la contingence, tout simplement parce que le multivers dit qu'il est possible qu'il y ait d'autres univers que le nôtre. En tant qu'hypothèse scientifique, ça nous donne une intuition supplémentaire en faveur de l'idée que notre univers est contingent, qu'il est un univers possible parmi d'autres. Le fait que l'univers soit un ensemble de parties fait qu'il est forcément dépendant de ses parties, il est donc contingent, d'autant plus que ses parties elles-mêmes sont contingentes. Et ça, c'était l'argument original de Leibniz. Vous ne pouvez pas arriver à quelque chose de nécessaire si vous additionnez des éléments qui sont contingents. Alors cet argument, il est intéressant et il est vrai, l'univers est contingent, quelle que soit la théorie du temps que l'on adopte. Que l'on adopte la théorie A du temps, c'est-à-dire un temps dynamique, ou que l'on adopte la théorie B du temps, c'est-à-dire un temps statique, dans tous les cas, c'est vrai. Même si le temps était statique, notre univers, il est contingent. Il aurait pu être autrement ou il aurait pu ne pas exister. Et en ce sens, c'est une force par rapport au précédent argument. Cet argument est valable même si le temps était infini, même si l'univers était sempiternel, même s'il n'y avait jamais eu de commencement. Même si on conçoit un univers qui est infini dans le temps, c'est un ensemble, c'est une série de relations de cause à effet, mais toute cette série entière pourrait également ne pas exister. Certes, elle existe, mais elle pourrait tout simplement ne pas exister. Et donc se pose toujours la question du pourquoi est-ce que l'univers existe. Donc c'est ça la force de l'argument, c'est que la contingence est extrêmement large et comprend donc une énorme quantité d'univers possibles. Dernière prémisse, par conséquent, il doit exister une chose nécessaire expliquant l'univers. Alors elle est déduite encore une fois logiquement des prémisses précédentes. La question, encore une fois, c'est pourquoi serait-ce Dieu ? Alors là, je vais suivre une démonstration plutôt leibnizienne-wolfienne, qui consiste à dire que si cette cause doit être nécessaire, eh bien ça veut dire qu'elle est inconditionnée, elle ne dépend pas d'autres conditions qu'elle-même, elle dépend intégralement, uniquement de sa nature, et elle doit être autosuffisante, parce que si elle dépendait d'autre chose, elle serait évidemment contingente d'autres facteurs que soi-même. Donc elle doit être autosuffisante. Si elle est inconditionnée et autosuffisante, elle doit être simple, parce que si elle était composée de parties, elle en dépendrait, donc elle doit être simple. En philosophie, on utilise le mot simple pour désigner quelque chose qui ne contient pas de parties. Donc l'image classique qu'on a de l'atome, même si c'est faux, mais l'image classique qu'on a de l'atome, c'est une définition du simple. Un exemple du simple. Donc elle doit être simple, elle doit être éternelle, sinon elle dépendrait d'une dimension qu'a le temps. Elle doit être infinie, parce que sinon il faudrait intégrer à son explication un facteur limitant sa propre puissance. S'il n'y a rien qui puisse la limiter, elle doit être infinie. Et dans la mesure où toute chose dépend de cette cause, elle doit être omnipotente, puisqu'elle a la raison ultime de toute chose. Enfin, pourquoi est-ce que ça doit être une personne ? Eh bien parce que dans la mesure où elle est la cause de l'univers, univers qui est contingent, c'est-à-dire qui aurait pu ne pas exister ou qui aurait pu être différent de ce qu'il est, tandis que l'être nécessaire en soi s'explique et s'autosuffit, ne dépend de rien, n'est contraint par rien, eh bien la meilleure explication possible, c'est qu'il s'agit d'un acte libre. Et donc par conséquent, un acte qui soit gratuit, autrement dit volontaire, et un acte d'amour. Donc voici comment on arrive à partir de l'argument de la contingence à l'idée d'un Dieu qui est libre et un Dieu d'amour. Alors si on considère que le principe de raison suffisante est un peu trop fort, et si on n'est pas très convaincu par l'argument d'Alexander Pruss, on peut encore essayer de trouver un autre argument, et là j'en viens à l'argument de Richard Swinburne, à savoir l'argument de la complexité. Et lui, il était professeur à l'université d'Oxford. Alors ici, je le formule de façon beaucoup plus simple que le résumé que j'ai mis, qui vous est fourni, qui développe un peu plus l'argument. Je vais me limiter à une forme un peu plus simple de l'argument ici. Donc, l'hypothèse la plus simple expliquant un phénomène est probablement vrai. C'est ce qu'on appelle, de façon classique, l'inférence à la meilleure explication. Si on essaie d'expliquer un phénomène, on ne connaît pas réellement son explication, eh bien on va imaginer les différentes explications, et celle qui est la plus simple sera celle qui sera a priori normalement la plus vraie. Deuxième prémisse, si l'univers existe, l'hypothèse explicative la plus simple est qu'il a été créé par Dieu. Alors ça, évidemment, il faudra le justifier. Or, l'univers existe, donc il est probablement vrai que l'univers existe. Alors là, vous voyez d'ailleurs que Richard Swinburne, contrairement aux deux précédents arguments, choisit une forme de plausibilité ou de probabilité dans l'argument. Swinburne insiste énormément sur la notion de probabilité, bien plus que les deux précédents auteurs. Alors la première prémisse de Swinburne repose sur une analyse de l'explication. Swinburne a longuement étudié l'épistémologie, la théorie des sciences, et en a déduit un certain nombre de choses sur la façon dont on explique en science. Et pour lui, une bonne explication repose sur quatre critères. La première, c'est qu'elle doit être prédictive. Elle doit nous permettre d'arriver à l'idée qu'il doit avoir tel effet. Sylvain Bréchet nous en a déjà parlé tout à l'heure. Elle doit être simple. Il faut éviter les explications qui sont inutilement complexes. C'est le principe d'Occam, hein. On élimine toutes les entités qui sont inutiles pour expliquer un phénomène. Elle doit s'accorder avec nos connaissances. Donc il ne faut pas que ça vienne contredire un autre corpus de connaissances que nous ayons. Et puis, sans elle, il faut que le phénomène à expliquer devienne improbable. Encore une fois, on en revient à l'idée que si une hypothèse rend aussi bien probable, a comme implication à la fois l'existence ou la non-existence de ce qui est expliqué, eh bien la valeur explicative de cette hypothèse n'a aucune valeur. La prédiction nous précise Richard Swinburne n'est pas de type forcément chronologique. Parce qu'évidemment, sinon, on l'attend au tournant. Si Dieu est une hypothèse prédictive, le fait est que les effets, on les a déjà vus. Comment est-ce qu'on fait pour les tester à nouveau? Ce sur quoi Richard Swinburne insiste sur le fait que ce qui est important, c'est pas finalement le lien chronologique entre l'hypothèse et les effets qui devraient être prédits, c'est plutôt le lien logique. C'est-à-dire que si l'hypothèse est vraie, alors on devrait s'attendre à tels effets. Peu importe que ces effets se soient déjà déroulés ou qu'ils soient attendus. Dans tous les cas, il y a un lien logique de telle sorte que l'hypothèse devrait impliquer tel ou tel effet. D'ailleurs, c'est particulièrement vrai en histoire. En histoire, dans les sciences historiques, on utilise beaucoup l'inférence à la meilleure explication. Or, on ne peut pas faire en sorte que, de nouveau, les événements historiques se produisent. Pourtant, on utilise énormément l'abduction. Donc, Richard Swinburne en conclut que ce qui compte, ce n'est pas tellement la chronologie, mais plutôt la logique. Entre plusieurs hypothèses possibles, il faut évidemment opter pour la plus simple. C'est le principe d'Occam. Une explication n'est pas forcément de type physique, nous dit Richard Swinburne. On peut certes expliquer un phénomène par l'inanimé, par des principes scientifiques. On peut aussi l'expliquer par des intentions. Et là, on revient à l'argument qu'avait déjà employé William Lane Craig, à savoir qu'il y a deux types d'explications, celles qui sont plutôt de type mécaniste et celles qui sont plutôt de type intentionnel. On peut accepter les deux pour expliquer quelque chose. Par exemple, si vous voulez expliquer un meurtre, il est bien évident que la notion de mobile sera absolument essentielle. Un commissaire de police utilise bien plus souvent une explication par l'intention plutôt qu'une explication de type physique. À moins qu'il veuille faire, bien entendu, de la neurologie du cerveau des criminels, mais c'est extrêmement rare. Dieu peut être considéré comme une hypothèse explicative. Alors pourquoi ? Eh bien, d'une part parce que c'est une entité qui est extrêmement simple, et puis d'autre part parce qu'elle donne lieu à des prédictions. Alors en quoi Dieu est une entité qui est simple ? Eh bien, sa simplicité, elle est due au fait que Dieu est une entité personnelle infinie. D'après Swinburne, le fait qu'il soit une entité personnelle infinie fait de lui un être qui est simple, c'est-à-dire un être qui est sans partie. Dieu n'est pas corporel, il n'a pas de partie, donc c'est quelque chose d'extrêmement simple, un peu comme un atome. Si Dieu était fini, en puissance par exemple, en existence ou encore en connaissance, il faudrait trouver une explication du pourquoi est-ce qu'il est fini. Et donc le fait qu'il soit infini est une hypothèse beaucoup plus simple que le fait de l'affirmation de sa finitude. Si Dieu connaît toute vérité, eh bien il connaît ce qui est bien et ce qui est mal. Or, et là-dessus Richard Swinburne suit un peu un raisonnement platonicien, celui qui connaît le bien veut le bien, c'est-à-dire que pour Platon, celui qui fait le mal c'est parce qu'il ignore ce qu'est le bien. Donc Richard Swinburne se reconstruit à peu près sur le même type de raisonnement pour affirmer que Dieu, connaissant toutes les vérités morales, veut forcément ce qui est bien. Et si Dieu existe, eh bien, on doit alors s'attendre à ce qu'il crée un univers en vertu de sa bonté. De l'autre côté, qu'avons-nous ? Nous avons un univers qui, en tant qu'univers, est quelque chose de complexe. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'un univers, ça contient différentes catégories de réalités fondamentales. On a différents types de particules. Chacune a un comportement qui est spécifique, ça veut dire un classement par espèce. Tout cela, ça rajoute de la complexité. On a un grand nombre d'individus, il suffit de compter le nombre de particules qu'on a dans l'univers. Et on a des lois universelles, qui d'ailleurs auraient pu être tout à fait régionales. Rien n'empêche qu'elles puissent être régionales, c'est-à-dire valables dans une certaine partie de l'univers et pas dans l'autre. Donc se pose la question de toute la complexité de cet univers. A priori, nous dit Swinburne, puisque Dieu est plus simple que l'univers, eh bien, il a plus de chances d'exister que l'univers, parce que ce qui est plus simple a plus de chances d'exister que ce qui est plus complexe. Dieu étant plus simple, eh bien, il a plus de chances d'exister que l'univers. Donc, en termes de probabilité, si l'univers existait, eh bien, on devrait s'attendre à ce que Dieu lui-même existe, puisque la probabilité est beaucoup plus grande pour Dieu que pour l'univers. Alors, l'univers lui-même est une réalité qui est complexe et qui attend une explication. Il pourrait ne pas en avoir. Et ça, Richard Swinburne l'admet. Il n'adhère pas en tant que tel au principe de raison suffisante. Donc il admet que c'est possible que quelque chose n'ait pas d'explication. Mais néanmoins, c'est peu probable. Parce que si une chose n'a pas d'explication, il est moins probable que cette chose effectivement apparaisse, plutôt que si elle a une explication. Le fait d'avoir une explication fait que la chose devient nécessaire, en vertu de son explication. Donc si une chose a une explication, il est beaucoup plus probable que celle-ci apparaisse, plutôt que si elle n'en a pas. Et donc, par conséquent, si l'univers est une réalité complexe qui attend une explication, il est peu probable qu'il n'en ait pas, et il est beaucoup plus probable qu'il en ait une. Si Dieu permet justement d'offrir une explication ultime à l'existence de l'univers, eh bien, dans la mesure où nous constatons que l'existence de l'univers est moins probable que l'existence de Dieu, en vertu de ces deux affirmations, on peut affirmer que Dieu est probablement la meilleure explication qui soit, et qui existe probablement. Alors, l'argument de Swinburne a plusieurs avantages. D'une part, il ne se prononce pas sur la question à savoir si l'univers a eu un commencement ou pas. Swinburne pense que c'est probable, mais il ne se prononce pas sur cette question-là. Il ne définit pas une position claire et stricte. Donc, dans tous les cas, son argument vaut quand même. Swinburne également n'adhère pas au principe de raison suffisante. Donc, ce n'est pas grave s'il y avait de l'indéterminisme quantique. C'est quelque chose qui concerne que seulement quelques phénomènes. Globalement, il est toujours vrai que, en général, si une chose a une explication, elle a plus de probabilité d'être, plutôt que si elle n'en avait pas. Et donc, l'argument de Swinburne est très très large. Mais évidemment, puisque l'argument de Swinburne est très très large, sa conclusion est également uniquement plausible. Alors, à partir de l'étude de ces trois arguments cosmologiques, on peut discerner trois choix opérés. Est-ce qu'on veut un principe de causalité ou un principe de raison suffisante? PC, c'est principe de causalité, c'est pas le Parti communiste, rassurez-vous. Et PSR, en fait, c'est un anglicisme, c'est principe de raison suffisante. Est-ce qu'on veut qu'il soit fort ou est-ce qu'on accepte qu'il soit faible? Si on postule évidemment un principe fort, on a une conclusion qui est certaine. Si on postule un principe qui est faible, on a une conclusion qui n'est plus que plausible seulement. Deuxième choix à opérer. Est-ce qu'on préfère avoir une simplicité ou une complexité scientifique? En ce sens où certains arguments vont être très très simples scientifiquement, mais très compliqués philosophiquement. D'autres vont être très très compliqués scientifiquement, mais très simples philosophiquement. Par exemple, l'argument de William Lane Craig, d'un point de vue philosophique, il est très très simple à dire. Tout ce qui a un commencement a une cause. Or, l'univers a un commencement, donc l'univers a une cause. Philosophiquement parlant, c'est très très simple. Par contre, le débat scientifique qui est derrière est immense. Il faut étudier toutes les alternatives possibles à la théorie du Big Bang, ce qui est beaucoup plus compliqué. A contrario, on peut avoir des arguments philosophiques qui sont très complexes, mais scientifiquement très simples. L'argument de la contingence, par exemple, il est scientifiquement très simple, puisque quasiment n'importe quel univers possible rentre dedans. Par contre, philosophiquement, si vous vous souvenez de l'argument de Alexander Press par rapport au principe de raison suffisante faible, il est très compliqué. Donc il y a un choix à faire, c'est un peu comme en physique. On choisit ou bien des mathématiques très complexes et on a une physique simple, ou bien on choisit des mathématiques très simples et on peut avoir une mathématique complexe. Je pense que vous m'avez suivi, je ne sais plus si je me suis mélangé dans mes affaires. Voilà. Donc il y a un choix à faire à ce niveau-là. Il faut se demander également de quoi part-on? Est-ce qu'on part de Dieu ou est-ce qu'on part de l'univers? On peut partir de l'univers pour atteindre l'idée de Dieu, mais alors il faut faire une analyse conceptuelle qui parfois peut apparaître un peu fastidieuse pour démontrer que ce principe premier est bien effectivement Dieu, plutôt qu'un principe premier qui serait purement philosophique, impersonnel. On peut à l'inverse, comme Richard Swinburne par exemple, préférer démettre l'hypothèse directement Dieu, donc elle est beaucoup plus facile à définir, mais du coup on peut se demander est-ce que l'hypothèse n'est pas un peu gratuite? Donc il y a un choix à faire là aussi. D'où part-on? Dans tous les cas, il y a un choix à faire d'une manière plus générale, qu'on soit athée ou qu'on soit théiste. Soit on postule la rationalité de l'univers, c'est-à-dire qu'on pense qu'il est très plausible que tout ait une explication, ou que la plupart des choses aient une explication, et auquel cas on arrive quasi infailliblement à l'existence de Dieu. Soit on refuse l'existence de Dieu, Et dans ce cas de figure, on est obligé de concéder et de renoncer même à la rationalité de l'univers. Et d'une certaine manière, il y a un auteur qui l'avoue, d'une franchise qui était extraordinaire, quand je l'ai lu, j'en suis tombé quasiment de ma chaise, c'est André Comte-Sponville, qui nous dit noir sur blanc ceci dans son livre « L'esprit de l'athéisme ». Il nous dit « La preuve cosmologique me paraît forte. Elle me fait parfois hésiter ou vaciller. Le nerf de cette preuve, c'est le principe de raison suffisante qui veut que tout ait une raison d'être qui l'explique. Mais pourquoi n'y aurait-il pas de l'absolument inexplicable? Serait-ce absurde? Et alors, pourquoi la vérité ne serait-elle pas absurde ?» Et donc là, on a un choix fondamental à faire. Ou bien théisme, enfin, ou bien rationalité de l'univers, donc théisme, ou bien athéisme, et donc grand mystère. Finalement, qui croit le plus en un mystère? Je pense que c'est l'athéisme.